Armande Sylvestre. Lettre d'amour. Mon cher Paul, je sais que je vais te briser le cœur, mais il faut que je te dise la vérité. Je suis certaine aujourd'hui que mon mari a des soupçons. Je ne suis dupe ni de ses prévenances à ton endroit, ni de ses attentions pour moi. Tu ne connais M. Grand-Martin que par ses beaux côtés, mais c'est un homme terrible et d'un caractère extrêmement capricieux et bizarre. Tu sais qu'il m'a épousée sans dot et qu'il me rend depuis 10 ans la plus heureuse des femmes, depuis que je te connais surtout. Tu as vu comment il t'a accueillie et tout ce qu'il a fait pour que tu aies de l'avancement à ton ministère. Eh bien, il serait capable d'oublier en un instant tout cela et de changer du tout au tout s'il venait à apprendre la vérité. Il y a dans ses allures je ne sais quoi qui m'inquiète. Sous prétexte qu'on a assommé 2 passants dans notre rue, depuis 8 jours, il a acheté un revolver. J'ai cru d'abord que c'était pour te le prêter, puisque c'est toi qui sors tard de la maison. Mais non, il l'a mis dans son secrétaire sous clé. Je l'ai surpris l'autre jour, lisant tout seul Roméo et Juliette, lui qui a horreur de Shakespeare, et il riait abominablement d'un mauvais rire, sans doute au moment où les 2 amants sont indignement massacrés. Tout cela est malheureusement bien clair. M. Grand-Martin pressent quelque chose et a de mauvais projets. Mon pauvre ami, il nous faut du courage. Un éclat serait terrible. Je connais ta délicatesse. Tu ne voudrais ni de l'amour d'une femme perdue, ni de la société d'un homme déshonoré. Dieu merci, nous avons pu nous aimer, le front haut, dans le mystère. Si tu t'es autant plu dans mon modeste intérieur, c'est qu'il était avant tout honorable. Tel je veux le garder pour les enfants que je puis avoir et que j'ai un instant oublié pour t'aimer follement. Il faut nous dire adieu, mon Paul bien-aimé. Tu diras que tu as un voyage à faire et je distrairai de mon mieux mon mari pour l'habituer à ton absence. J'ai dit plus haut que c'était un homme absolument versatile et qui change d'idée sans s'en apercevoir. Un rien, une nouvelle figure dans la maison, et il ne pensera plus du tout à toi. Mais, avant tout, il faut anéantir les traces d'un passé plein de périls. Je veux te rendre tes lettres que je promène depuis 8 jours, de placard en placard, tremblante comme une feuille quand M. Grand-Martin passe à côté de ma cachette, et j'exige que tu me rendes les miennes. Cet échange ne peut se faire à la maison, ce serait trop dangereux. Je voudrais d'ailleurs, mon cher Paul, que la dernière heure qui nous est donnée fût douce et exempte d'inquiétude. Voilà donc ce que j'ai imaginé et pourquoi je t'écris ce matin. Je vais passer la journée de demain à Fontainebleau, chez ma tante. Attends-moi à l'entrée de la forêt, à l'auberge du père Toutain, où nous avons été, tu t'en souviens. Je ferai dîner de bonne heure, je prendrai une voiture et, sous couleur de promenade, je viendrai passer avec toi une partie de la soirée. C'est égal, j'ai le cœur déchiré. Que la vie des femmes est cruelle et de quels sacrifices se paient les saintes joies de la conscience. Mon mari me saura-t-il seulement gré de ce que je fais pour lui? Comprendras-tu toi-même ce qu'il y a d'amour dans mon courage? Je ne sais, mais qu'importe, c'est pour soi-même, comme dit ma tante, qu'il faut bien agir. À demain donc, mon bien-aimé, ta fidèle Anna. P.S. Surtout, n'oublie pas mes lettres. Chapitre 2. Paul Aubergier rentrait bien tranquillement de son bureau quand il reçut cette épître. Après l'avoir lue 2 fois, il se frotta bien fort les yeux, comme quelqu'un qui n'est pas sûr d'être éveillé, et cet exercice le fit pleurer amèrement. Il fut ému lui-même de cette douleur éclatante et tenta de sécher ses propres larmes par de bons raisonnements. Anna était, il est vrai, charmante, mais Grand-Martin était bien ennuyeux. La maison était isolée, très lointaine et même un peu humide, ce qui est toujours malsain. Le détail des 2 passants assommés n'avait rien de joyeux. Celui du revolver acheva de rendre Paul à la vertu. Anna avait 100 fois raison. Il écrivit à son chef de division qu'il était d'enterrement le lendemain à 20 lieues de Paris et sourit mélancoliquement en pensant à ce qu'avait de vrai ce mensonge. C'était un garçon pratique et qui se dit qu'il fallait tirer tout le parti possible de ce congé improvisé. Une journée à la campagne détendrait ses nerfs et la nature est un calmant recommandé par tous les grands écrivains. Paul avait lu Rousseau. Il fit honnêtement un paquet des précieuses lettres et, une heure après, il montait dans le train. 8 heures du soir sonnaient quand il arriva devant le seuil du Père Toutain. On était en juin, à l'époque où il y avait encore des étés, et ce n'est pas d'hier, comme dit le divin Rabelais. Le soleil, en posant son pied rouge à l'horizon, en avait soulevé une impalpable poussière d'or. Les grands arbres de la forêt se dressaient sur cette fumée lumineuse comme les piliers d'un temple qu'éteint un lointain incendie. Un grand recueillement était dans toute chose et semblait monter du mystère des mousses à l'ombre épaisse des feuillets. D'imperceptibles voix faisaient croire au silence. Les parfums se croisaient dans l'air où les fleurs mourantes du jour échangeaient des adieux. Le couchant était fait d'une large nappe de clarté, tandis qu'au bord opposé du ciel, un grand nuage semblait l'aile de la nuit, prête à s'étendre. Monsieur Aubergier n'était pas un rêveur, mais il était de ceux chez qui existe, comme l'a dit Sainte-Beuve, un poète mort jeune à qui l'homme survit. Ce poète-là, chez lui, était même mort au berceau. Mais il est des heures où les petits anges que la mort fait tous les jours prennent leur envolée, descendent parmi nous et s'ébattent autour de la terre sitôt quittée. Ils viennent consoler les mères et rendre le premier sourire à leurs lèvres douloureuses. Paul reçut ce soir la visite du petit exilé qu'il avait logé autrefois et la beauté de ce spectacle admirable d'une soirée en forêt ne le trouva pas aussi insensible que son chef de division eût pu le souhaiter. Il fut pris, ma foi, d'une belle et bonne mélancolie, se sentit envahi par l'émotion de ce décor et versa cette fois-là de vraies larmes en pensant à Madame Grand-Martin. Les souvenirs lui montèrent au cerveau avec l'odeur grisante des fougères et c'est presque comme un automate, sans savoir par où il était venu, qu'il se trouva tout à coup devant la porte du dernier gîte ouvert à son amour. Chapitre 3. Un effroyable vacarme le réveilla de ce doux engourdissement des réalités. Le père Toutain venait de flanquer à son neveu Grégoire une paire de gifles qu'on avait pu entendre à Melun. Le gars, que son parent avait redressé ensuite par un solide coup de pied en pleine croupe, en avait déboulé tout l'escalier, et c'est comme un projectile qui tombait sur le voyageur, la tête en avant. Paul Aubergier supporta assez bien le premier choc, mais il évita moins bien le second tour de jambe du père Toutain, qui poursuivit le fils de sa sœur avec l'acharnement d'un atride. « Polisson, feignant, propre à rien !» hurlait l'aubergiste. « Si jamais je te revois !»« Ah, pardon, c'est vous, monsieur Aubergier. Faites excuse, vous n'êtes pas blessé. Vite, une brosse. Et votre dame ?» Paul mit un doigt sur sa bouche. « Avez-vous une chambre à me donner pendant 24 heures ?» « Ah, sapristi, vous tombez mal, mon pauvre monsieur Paul. Une colonie d'Anglais s'est installée chez moi. Ils herborisent tous les jours, mais ils rentrent tous les soirs. Ce sont des gens très réguliers dans leurs mœurs. J'y pense cependant. Si vous n'étiez pas trop difficile, je vous donnerais la chambre de Grégoire. Est-ce tranquille ? La plus tranquille de la maison. Alors, c'est bien, faites mettre des draps. » Et sans causer plus longuement, Paul alluma un bougeoir et suivit le père Toutain. Tandis qu'il regarde tristement par la fenêtre, la première étoile trouait comme une chèvre de sa corne d'or le rideau bleu du ciel et que le père Toutain fait, en grommelant, le lit « Si nous parlions un peu du forfait de Grégoire. » Grégoire, riche de 16 printemps, mais sans autres biens au soleil, Grégoire, recueilli par un oncle brutal mais miséricordieux, n'avait qu'une passion fâcheuse, celle du braconnage. Depuis 4 ans déjà, il s'était procuré, on ne sait comment, un fusil clandestin dont personne n'avait encore pu découvrir l'étui, mais avec lequel il avait déjà donné lieu à maintes plaintes. Les menaces de procès-verbaux pleuvaient sur ses talons, mais le corps du délit manquait toujours. Impossible de découvrir l'arsenal du jeune malfaiteur. Pan, pan! On entendait les deux coups et l'enfant apparaissait les deux mains dans ses poches. On avait fouillé sa chambre dans tous les sens. impossible d'y découvrir des munitions. Par-ci, par-là, dans les chemins voisins, la douille d'une cartouche récemment tirée. Mais la cartouche elle-même, jamais. C'était sur la dénonciation menaçante d'un notable dont les faisans disparaissaient à vue d'œil que Grégoire venait d'être traité par son bienfaiteur presque aussi rudement qu'autrefois Nemrod par les auteurs de l'Ancien Testament. Mais revenons à Paul. Je dois avouer qu'il avait complètement épuisé, dans son attendrissement devant le coucher du soleil, le tout petit fond de poésie dont la nature l'avait doté. C'est donc fort tranquillement qu'il se coucha et goûta un sommeil vraiment scandaleux chez un homme désespéré. En vain, la fanfare du coq lui sonna le réveil. Ce ne fut pas pour lui que les premiers souffles de l'aurore secouèrent aux branches mouillées, comme d'invisibles clochettes, le gazouillement des oiseaux. M. Aubergier fit grasse matinée, déjeuna copieusement après son lever, et ce ne fut que vers l'après-midi, en pleine digestion, qu'il se remit à penser à son amour. C'est par cette discipline dans les occupations que se font les belles santés et les grands hommes. Napoléon était comme ça. Il ouvrit donc le paquet de lettres de Madame Grand-Martin et se mit à les relire pour la dernière fois. Quelques-unes lui inspirèrent des commentaires utiles à relater. 1er avril 1886. Ce soir à 10 h, derrière la troisième caisse de l'orangerie. Le premier rendez-vous, comment se séparer d'un si doux souvenir? Paul mit à part cette épître laconique, bien décidé à la garder. Autre. 16 avril, jamais je ne t'avais si bien compris. Que tu es bon! Il paraît qu'il y avait dans ces quelques mots quelque chose de bien flatteur, car, après un peu d'hésitation, Paul mit bravement cette lettre à côté de celle qu'il avait bien l'intention de ne pas rendre. Autre encore. 19 mai, c'est demain la fête de mon mari. Offre-lui une jardinière. C'est pour ma chambre. Bonne pour tous, dit Paul avec un triste sourire. Et puis celle-là. Tu sais que tu m'as bien fait de la peine, mais je veux croire que tu ne m'as pas menti. Celle-ci, pensa Paul, n'est pas meilleure à conserver qu'à restituer, et il la déchira philosophiquement en 1000 pièces. Et puis celle-là. Que je suis heureuse, ton chef de division a promis une gratification pour toi à mon mari. Et il ne me l'a pas donnée, pensa Paul. Aussi glissa-t-il ses lignes brûlantes dans le portefeuille spécial où il a cumulé ses états de service et ses griefs administratifs. En poursuivant avec cette méthode, il réduisit sensiblement le volume de la correspondance de sa bien-aimée. Après tout, se dit-il, ce n'est pas chez moi que son mari viendra chercher les lettres. Il n'interrompit ce petit travail d'épuration qu'à l'heure du dîner. Quelques instants après, un de ces bons fiacres de Fontainebleau, façon carrosse, et qui semblent faits exprès, avec leurs marchepieds proéminents pour assassiner Henri IV, s'arrêtait, dans la poussière du soir, devant la porte de l'auberge, et une femme en sortait furtivement. Chapitre 4. Je n'ai pas encore fait le portrait d'Anna. Je choisirai, pour réparer cet oubli, le moment où, après avoir serré fiévreusement Paul dans ses bras, elle se posa tranquillement devant la petite glace de la chambre de Grégoire pour détacher, une à une, les épingles qui retenaient sa mantille à son chignon. C'était une jolie petite bourgeoise grassouillette, aux yeux très clairs pailletés d'or comme deux verres d'eau-de-vie de Danzig, aux mains criblées de petites fossettes, n'ayant ni ligne ni race, mais charmante à voir en profil perdu, avec un bouton d'ambre sur la nuque. Signe particulier, ta maîtresse ou la mienne, comme le dit un poète contemporain. En somme, un article de Paris en parfait état. Ce petit bout de toilette achevé, c'est d'abord avec de gros soupirs qu'on s'aborda. Paul, en particulier, se crut obligé d'imiter, à cette occasion, les forges de l'Etna. Ils sont assommants, nos deux amoureux. Laissons-les donc à leur mélancolique entretien dans leur chambre d'auberge, où la nuit est venue sans qu'ils aient paru s'en douter, pour courir dans le bois avec ce polisson de Grégoire. Les lucioles s'allument dans les mousses, tremblantes comme des reflets d'étoiles sur l'eau. Des vapeurs d'encensoir semblent flotter sur les vallées. Ils montent des mares lointaines, des tintements de cristal, et l'air est imprégné de chaudes odeurs qui grisent. L'épaisseur des feuillets a des sursauts. C'est un daim qui s'effarouche ou une couleuvre qui passe. Des milliers de bêtes se recherchent dans le silence et la vie fourmille dans cette ombre. L'amour est partout, vrai, profond, inexorable, immense, partout, excepté dans le cœur du jeune bureaucrate et de cette petite bourgeoise qui se restitue leurs autographes. Eh bien, vous vous trompez. Au moment où nous retrouvons Paul et Anna, la lumière apparue à leur croisée, nous ayant rappelé à notre devoir de narrateur fidèle, ils échangent des serments infinis. Eh bien, oui, toujours, mais n'écrivons plus, c'est si dangereux, les lettres. Le langage des fleurs est si doux et presque aussi commode qu'il paraît. À quoi bon nous les rendre? Brûlons-les. C'est cela, brûlons-les ensemble. Je les ai, tant de fois, couvertes de baisers. Ah, que la vie des femmes est cruelle! Et sur cette exclamation qui lui était familière, Anna approcha de la bougie les deux paquets enrubannés et les fit flamber lentement, regardant s'en envoler des façons de papillons noirs aux ailes un instant traversées d'hiéroglyphes en feu. Pendant ce temps-là, Paul avait enlevé méthodiquement le devant de la cheminée où la jolie Madame Grand-Martin jeta le double tison de papier quand celui-ci commença à brûler ses doigts rosés. Après quoi, Paul s'élança à ses pieds avec tant d'impétuosité qu'il en jeta à terre la bougie qui s'éteignit, et les serments allaient recommencer de plus belle dans l'obscurité quand un coup de feu retentit à deux pas d'eux dans la chambre. « Mon mari ici, nous sommes perdus !» murmura Madame Grand-Martin en se trouvant mal. « Grâce, grâce, Anatole !» s'écria Paul en se glissant intrépidement sous le lit. Mais les pauvres enfants avaient affaire à un ennemi sans pitié. Ce fut une véritable fusillade. Les détonations se suivirent, drues et tonnantes, avec des éclairs qui passaient dans les rideaux. « Au secours ! Au secours ! » gémissait Paul. Le père Toutain accourut, enfonça la porte fermée au verrou, se rua dans la chambre une lumière à la main, suivie de toute sa maisonnée. Anna et Paul gisaient inanimés. « Un double suicide !» pensa l'aubergiste. « Encore des ennuis pour moi. Y ont-ils mis assez d'obstination, les gredins ?» Anna ouvrit les yeux la première. « Ne m'achève pas !» soupira-t-elle. « Il est mort et nous étions en train de nous dire adieu. » Paul, à son tour, décroisa ses deux jambes qui se trouvaient dans une fausse position. « Grand Martin, fit-il tout bas, je vous pardonne. » Mais sa mort, à elle, eût dû vous suffire et nous étions en train de nous quitter à jamais. » Au dehors, Grégoire s'arrachait les cheveux, une véritable broussaille. « Mes cartouches » hurlait-il, « mes cartouches, ne les brûlez pas toutes, je ne chasserai plus jamais !» Car, ai-je besoin de te le dire, lecteur bénévole, lecteur judicieux, pendant que se déroulait ce drame affreux, dans un des sites les plus mystérieux de la forêt, M. Grand-Martin, le doux et Benoît Grand-Martin, prenait tranquillement sa demi-tasse à Paris, au café des Trois Guignols, rue Bénévent. Il était même en train de se dire « Est-ce ennuyeux que Paul n'ait pas eu l'idée de venir dîner avec moi? Nous aurions fait une si bonne partie de domino. » C'était l'affreux Grégoire qui avait causé tout ce vacarme et cette terreur. Depuis qu'on ne faisait plus de feu dans la cheminée de la chambre, et son oncle n'en faisait jamais par économie, n'avait-il pas imaginé de cacher ses chères cartouches dans une anfractuosité des pierres qui la tapissaient intérieurement? Le paquet enflammé des lettres de Paul et d'Anna y avait mis le feu. Aucun mal sérieux. Paul seul avait reçu un unique grain de cendrée par derrière au moment où il s'agenouillait devant Anna. À quelque chose, malheur est bon. La morale devait tout gagner à cet incident, car le hasard n'est qu'une façon d'être de la morale en action, laquelle finit toujours par reprendre ses droits. Anna ne peut plus penser à la blessure de Paul sans lui éclater de rire au nez. Paul, très mortifié, ne put jamais se remettre de la peur qu'il avait eue. Leur coupable liaison fut à jamais rompue et le doux, le Benoît M. Grand-Martin, put se reposer dans son honneur intact de toutes les émotions qu'il n'avait pas eues. Ainsi puisse-t-il en être toujours pour les braves gens.